des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. C'est quand même assez rigolo, hein, les hasards de la vie. En l'espace de quelques semaines, j'aurais reçu trois Patrice et trois comédiens. Après Patrice Cocro et puis Patrice Godin, voici venir le tour de Patrice Robitaille. C'est comme ça, ce sont les hasards de la vie. Patrice Robitaille qui a lu le tout dernier Martin Michaud, la dernière aventure de Victor Lessard, que vous pouvez suivre d'ailleurs en ce moment même encore sur le Club Illico de Vidéotron, ou que vous pourrez découvrir ça, c'est fun également, tel que lu par la personnification de son personnage, Patrice Robitaille, puisque Victor Lessard, c'est Patrice Robitaille et vice-versa. C'est vraiment un suspense vraiment emballant auquel nous convie Michaud avec ce nouvel opus. D'ailleurs, tellement emballant que je me suis dit, tiens, un 19 décembre, il est grand temps de parler de cadeaux de Noël. Et donc, tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, ben, ça pourrait faire des cadeaux emballants, sans compter qu'il n'y a pas besoin de les emballer quand on parle de livres audio. Ça a vraiment toutes les qualités possibles. Et puis, on va penser aux enfants. Nous aurons donc droit à une chronique de Marie-Ève Groux qui va venir nous présenter un ou deux titres pour les plus jeunes, également à mettre sous le sapin de Noël, sans parler de nouveautés et de nouvelles dans le merveilleux monde du livre audio. On commence, tiens, avec un artiste qu'on n'entend pas assez souvent, mais pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est Jean Viau, et ça va mettre la table pour Patrice Robitaille et Ghetto X, le petit dernier de Martin Michaud.
Il inspecta les lieux habiles, il semblait très heureux, dit-il. Encore des amoureux, faut-il chercher plus loin le mobile. Elle était blonde et très pâle, il était brun de sexe mâle, elle de sexe féminin. Faut-il chercher encore plus loin? Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. D'où vient cette lettre anonyme, postée du quartier des victimes, jaloux de leurs ébats sublimes, mais rien à voir avec le crime. Il retourna dans le salon, un foyer des divans profonds. On voit qu'il ne manquait de rien, mais le confort n'y est pour rien. Encore un sac à, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Et lorsqu'il sortait, les amants prenaient la ville d'assaut. Ils ne pouvaient savoir dans quel recoin bizarre se cachait le salaud. Car vint le premier jour d'ennui, puis le premier secret trahi, les portes claquées dans la nuit, la passion ne part pas sans bruit. Le détective voyait tout ça comme s'il avait été là. La femme courant sur le trottoir, l'homme la suppliant dans le soir. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident. Encore un sale cas, fit-il entre ses dents. Non, ce n'est pas un accident.
était blond et très pâle. Il était brun de sexe mâle. C'est le temps qui les a tués. Mais le temps, comment l'arrêter?
Jean Viot est déjà en studio, Patrice Robitaille est là. Bonjour Patrice, juste avant que je m'entretienne avec vous, je voudrais que nous écoutions tout de suite un extrait de Ghetto X, le petit dernier de Martin Michaud, que vous avez lu, et d'abord cette musique signée Martin Roy.
Victor s'approcha du cadavre. Il s'agissait d'un homme aux cheveux blonds et aux mèches rebelles qui gisait face contre terre dans une méduse de sang. Pour autant que Victor put en juger en observant le côté visible du visage exsangue, il devait avoir entre 30 et 45 ans. Son regard se posa sur la blessure d'entrée qui était apparente à l'endroit où le projectile avait déchiqueté, au niveau de l'omoplate gauche, le T-shirt que portait la victime. Gris à l'origine, le vêtement maculé avait pris une teinte mordorée. Victor inspira profondément pour lutter contre la nausée qui le gagnait. Il crut devoir sortir, mais son malaise passa. Il alla vers le mur de verre, où un technicien effectuait des prélèvements. Là, il examina le trou étoilé, ses rebords semblables à de la glace pilée, constellée de fines stries qui s'ouvraient à la hauteur de son visage. Le cône laissé par le projectile dans la vitre s'élargissait vers l'intérieur. À n'en pas douter, quelqu'un avait tiré de l'extérieur. Victor se retourna et observa le bas du mur parallèle où on avait encerclé d'un trait de crayon rouge un trou dans le béton. C'était l'endroit où la balle avait terminé sa course, après être passée à travers la victime. Perplexe, il estima que le projectile avait frappé plus d'un mètre en dessous du trou d'entrée dans la vitre. Un seul impact. Un poids sur le cœur. Il toucha ses cigarettes dans la poche de son veston. Même s'il avait depuis longtemps juré de se débarrasser de sa dépendance, le tabac demeurait un vieil allié face aux ténèbres.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais ça nous fait plaisir. Vous êtes chez nous pour enregistrer Victor Lessard, ce rôle qui vous colle à la peau depuis quelques années. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, j'espère qu'il va pas trop me coller à la peau, mais je pouvais pas avoir peur de ça. C'est
ben pas je vous avoue que j'ai pas eu peur. Ça m'a pas effleuré l'esprit, non? cette réflexion-là. Je le vois vraiment de façon... en fait, pour moi, ce n'est que du positif, l'aventure de Victor. Puis si ça se termine ainsi, avec le roman que je suis en train de lire ici chez vous, là, qui s'appelle Ghetto X, voilà. Comme le troisième volet de la télésérie, si ça se termine ici, ce sera très bien. J'ai l'impression que j'ai pu... Je sais pas, on m'a comme donné la chance de montrer une autre facette de mon registre d'acteur, de quelque chose de plus en retenue, de plus mystérieux. Je suis très content d'être allé là, puis là, j'ai déjà eu la chance de tourner dans une autre série qui va sortir au mois de mars, donc puis c'est un autre registre encore, donc j'ai pas peur de rester collé à Victor, bien que je vais m'en ennuyer si c'est la fin.
C'est vrai?
Ouais.
Est-ce que vous vous sentez proche de Victor Lessard?
Est-ce
que vous avez quelques traits de caractère? Vous n'êtes pas un ombrageux, vous n'êtes pas un zéro.
Pas du tout. Donc, c'est ça qui était le fun. C'est ça qui est le fun, en fait, de la carrière d'acteur, c'est d'aller dans des zones qui nous ressemblent pas tant que ça. Puis, je pense que on a tous en nous des traits de personnalité qu'on démontre peut-être pas tant que ça. Puis Victor m'a permis d'aller justement explorer des zones d'ombre, disons, là, où je me permets rarement d'aller.
Comment ça s'est fait, ça? Parce que est-ce que vous aviez déjà lu du Martin Michaud?
Non, j'avais même pas lu. Ce qui est très drôle, c'est que sur ma table de chevet, je pense que c'est son premier roman avec mettant en vedette Victor, en fait, dont Victor est la vedette. C'était comme sur ma table de chevet, il était comme au troisième rang. Là, il s'en venait, mais je l'avais pas lu encore. Et puis, quand on m'a offert le rôle, en fait, ils ont fait un espèce de mélange de la deuxième et de la troisième histoire de Victor Lessard.
Okay.
Donc, on m'a dit, ne lis pas les romans, parce qu'on a vraiment pris beaucoup de liberté par rapport aux romans. On s'est permis vraiment de prendre des raccourcis parfois, pis tout, parce que, évidemment, un roman, c'est beaucoup plus... volumineux, il y a plus de détails que la télésérie.
Donc, on peut s'étendre.
Exactement. Donc, on m'a dit, ne lis pas tout de suite, tu liras une fois l'aventure terminée. Et puis là, ben, C'est fou parce que on se retrouve 3 ans plus tard et là je lis une fois l'aventure, je sais pas si c'est terminé, mais en tout cas à tout le moins on m'a demandé de lire après avoir tourné la série qui s'appelle Ghetto X, on me demande de lire le roman Ghetto X.
Alors parlons-en de la lecture. Mm-hmm. Vous le comédien, vous en aviez déjà lu des bouquins?
Non, c'est une première. C'est une première pour moi.
Comment vous vivez ça, Patrice Robitaille?
Ben, je vous avouerais que j'étais nerveux la première session quand je suis arrivé ici, ouais. C'est un lieu quand même fascinant, tu sais, c'est comme juste peut-être pour expliquer aux gens, si les gens savent pas comment ça se déroule, mais on est ni plus ni moins dans une espèce de garde-robe, mais insonorisée.
C'est ça.
Vitrée, puis derrière cette vitre-là, il y a un technicien, un ingénieur de son qui est là, puis qui écoute et qui lit en même temps que nous, mm-hmm. puis qui relève si on fait des erreurs.
Et on en fait toujours parce que c'est normal.
C'est un flow.
On n'est pas des ordinateurs.
Non, c'est fou, là. Donc, puis je sais pas, j'aime beaucoup le travail, en fait, en amont. Tu sais, j'aime ça être chez moi, puis lire, puis prendre des notes dans mon...
Ben,
je travaille avec une tablette, donc je prends des notes, puis...
Sur le PDF, c'est tellement pratique maintenant.
Ouais, c'est vraiment bien fait. Puis, je sais pas, j'aime ce travail-là. Ceci dit, je sais pas si je suis bon, mais en ce moment, c'est ça. Je trouve que c'est quand même beaucoup de travail. Ça prend un souffle, tu sais, c'est vraiment de lire à voix haute, de façon intelligible, pendant... moi, je fais ici des blocs de 3 heures, là. C'est vraiment très drainant. Tu sors d'ici, puis tu fais, mon Dieu, j'ai juste travaillé 3 heures, mais...
Exactement.
C'est ça.
Ce que j'ai très hâte d'entendre, c'est que là, vous faites tous les rôles.
Ouais.
Alors, les rôles féminins, comme par exemple la délicieuse Jacinthe, vous avez dû vous régaler, non? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur le jeu de Julie Le Breton?
C'est fou. J'ai plus de facilité avec les scènes que j'ai déjà tournées, en fait, parce que je vais un peu vampiriser le travail de mes confrères et consorts de travail. Donc, j'ai comme encore en souvenir, en mémoire, les inflexions de voix, des fois, les façons de tourner les répliques. Donc...
Jacinthe jaugea d'un œil pénétrant. Quoi, t'as pas le goût d'en parler? Ça n'a pas rapport avec toi. Elle marcha vers le mur de verre, puis se retourna et lui fit face. Les mains sur les hanches, elle gronda. Je t'ai appelé, je t'ai texté, je t'ai laissé des messages. T'as disparu, Lessard! Victor baissa la tête. J'avais besoin de temps. Fallait que je fasse une coupure. À son air, il comprit qu'elle en était blessée. Ben moi, fallait que je te parle. On n'efface pas 15 ans de même. On était des partners, mon homme. Il releva la tête, soutint son regard. « T'as raison, je le sais. » Aujourd'hui, c'est la première fois que je t'appelle pour de quoi qui a rapport avec la job. Puis là, t'arrives à toute vitesse. Explique-moi ça. » Victor accusa le coup en silence. Lui-même ne comprenait pas. Il enfilait les gants de latex quand Nadja les rejoignit. Malgré l'air affairé qu'elle affichait, le coin de ses yeux trahissait sa joie de le voir. « Je voulais juste te dire, j'étais pas au courant. » Il sourit, puis, paume ouverte, toucha la joue de celle que Paul Delaney avait décidé de garder au crime majeur, le temps de recruter les ressources requises pour combler le cratère qui avait causé son départ. T'inquiète, j'avais compris. Nadja fronça les sourcils en posant les yeux sur ses vêtements. C'est du sang, ça? Es-tu correct? Il balaya l'air du revers de la main. Tout est beau, je t'expliquerai. Elle hésita, scruta son visage, puis hocha la tête.
Je m'en sers. J'ai l'impression que plus ça va aussi, j'ai l'impression que je m'améliore, mais je me dis, je sais pas, les gens qui vont commencer à l'écouter vont peut-être dire, il est poche, on arrête.
Non,
c'est dommage, j'ai l'impression que de chapitre en chapitre, ça va mieux.
Ce qui est un petit peu normal, et ça, malheureusement, on devrait toujours faire 3-4 chapitres pour rien, puis finalement commencer pour vrai après.
Ouais, vous avez raison.
Dites-moi, en ce moment, c'est encore la série est offerte sur le Club Illico, Vidéotron, et même si vous l'avez raté, ne paniquez pas, c'est une plateforme, exactement comme une plateforme de livres ou audio ou de disques, donc vous pourrez l'écouter quand vous voulez. Mm-hmm. Je voudrais qu'on parle un petit peu du livre, parce que moi, généralement, je lis les livres en entier. Là, cette fois-ci, je me suis gardé un genre de 300 pages. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que sur une plage, là, ça va être absolument génial.
Oh, et c'est parfait.
Mais je me dis, Michaud, lui aussi, s'améliore.
Êtes-vous
d'accord avec moi?
En fait, j'ai l'air un peu con parce que je dis que j'ai pas lu les romans, puis je prétends qu'il s'est amélioré, mais moi, je peux parler, en fait, du volet Martin Michaud, auteur de téléséries.
Ouais.
Puis, je l'ai dit avant même qu'on tourne la troisième saison, dans son écriture télévisuelle, il s'est vraiment amélioré. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de plus efficace. Ce roman-ci est beaucoup plus dans l'action. J'ai l'impression que c'est un peu plus en tout respect et avec beaucoup d'affection envers Martin. J'ai l'impression que c'est plus fin, plus délicat, plus moins à gros traits. J'avais l'impression la première saison, justement, le personnage de Jacinthe était un peu en tout cas, vous comprenez ce que
absolument.
J'ai l'impression que c'est plus délicat, c'est mieux ficelé. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Je n'en reviens pas, en tout cas, j'ai pas vu encore, moi. J'ai lu, mais je n'ai pas vu encore. Et à chaque page, en plus, on est vraiment, tu sais, c'est un cliché de dire qu'on n'arrive pas à poser le livre, mais c'est ça.
Ouais.
Parce que à la fin de chaque chapitre, on te laisse sur une patte, puis tu dis, voyons donc, il est pas mort comme ça, là, dans le caniveau. Parce qu'alors, le personnage de Victor, il en prend
tout
plein les mirettes, toute une. Et je te dis aussi, moi, que qu'il est plus humain, qu'il est plus sur l'émotion, il est plus, par exemple, l'attachement de Jacinthe à son ami, on le sent encore plus, et vous avez raison de dire plus finement.
Jacinthe glissa ses pouces sous sa ceinture et remonta son pantalon. Bon, les lovers, vous irez dans la chambre plus tard. Parce qu'elle comprenait que ces retrouvailles s'apparentait pour eux à une forme de rituel tribal. Nadja se composa un sourire figé et s'éclipsa sans rien ajouter. Jacinthe la considéra tandis qu'elle empruntait le corridor menant aux chambres. « Avec un peu d'expérience, elle va devenir presque aussi bonne que toi. » L'air grave, Victor jaugea son ancienne coéquipière. « Si le chef sait que je suis venu sur une scène de crime, on va être dans la marde. » Il ne craignait pas Marc Piché, mais il préférait se tenir à distance. S'il avait démissionné, c'était aussi qu'il n'était plus en mesure de travailler sous ses ordres. Il avait en effet acquis la certitude que le directeur du SPVM avait fermé les yeux sur les actes homicides d'un haut gradé.
La relation de Victor et Jacinthe est vraiment au cœur de cette saison-ci et de ce roman-là. En fait, l'histoire commence qu'ils se sont... Victor a quitté la police. Donc, ils sont plus ensemble. Donc, il y a comme un manque... Et puis leur retrouvaille, c'est vraiment savoureux ce moment-là. Et puis c'est ça, on va vraiment constater à quel point cette relation-là est précieuse pour les deux. Les deux se nourrissent, ils ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner à quelque part. Donc tout ça amène effectivement, comme vous dites, quelque chose de très touchant, de très humain, de très...
Il y a des éléments historiques aussi, quand même, mine de rien, à un moment donné, on fait mention qu'il y a eu au Canada, pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, donc il y a une recherche à ce niveau-là. Il y a aussi, quand on revient en arrière sur la mort de sa famille, je trouve qu'à un moment donné, il y a la mort du père qui est décrite, que le personnage de Victor Lessard achève finalement, mais la façon dont c'est écrit là, c'est vraiment du beau grand Michaud, et puis vous avez dû vous régaler même à lire ça, et même peut-être à découvrir des choses que vous n'aviez pas interprétées, que vous n'aviez pas
joué. Oui, tout à fait, il y a des moments dans le roman qu'on n'a pas fait, puis je découvre des choses, en tout cas il y a des personnages qui existent dans le roman qui n'existent pas dans la télésérie. Ils ont des fois fait des espèces de mélange de, mettons, ce personnage et ce personnage-là se confondent et n'en deviennent qu'un seul. Donc, il y a vraiment je trouve ça très, très plaisant comme exercice de lire après avoir tourné. Je trouve ça intéressant.
Ça vous a donné la piqûre, Patrice Robitaille, et on risque de vous revoir dans les couloirs pour en lire d'autres.
Pourquoi pas? Comme je vous dis, c'est un exercice, fort intéressant. Ouais. Ce que j'aime de mon métier, c'est ça, c'est de continuer d'apprendre puis de vivre de nouveaux challenges et de nouveaux défis. Puis de faire des rencontres, puis j'ai fait tout ça ici, donc oui.
Merci Patrice Robitaille. Alors, Ghetto X, que vous pouvez lire, que vous allez bientôt pouvoir entendre en livre audio, lu par Victor Lessard, Patrice Robitaille. Merci beaucoup.
Un plaisir, merci de m'avoir reçu.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudrait prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien. Va toujours y avoir la neige au mois de janvier.
il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bleuets. Toujours y avoir du vin sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. De l'eau dedans mon vin. Y vas-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Et des fois je me dis que je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout pis toutes les autres y ont rien. Change-moi ça.
C'était Philippe B et vous écoutez toujours l'émission des livres plein les oreilles animée pour vous par Clotilde Sey. Si je vous dis, connaissez-vous Luc Pinto Barreto? Si vous me dites non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ce monsieur est très lucide sur sa nouvelle activité, peut-on lire dans un article paru dans l'actualité. Le monde du livre, ce n'est pas un secteur qui se porte super bien, analyse ce type fantastique. Il dit, il faut vendre assez de livres pour payer le loyer d'un local classique. Le plus simple pour ne pas avoir de loyer, c'est de ne pas avoir de local et de se mettre dans l'espace public. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Ce monsieur Pinto Barreto, il a opté pour une librairie de rue. Ça se passe à Saint-Denis, dans le nord de Paris, que le Martiniquais a choisi de s'installer. Il a dit « J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce parvis sur lequel il est. Je me suis dit « C'est un super espace, c'est vivant, il y a plein de monde ». C'est donc ce bonhomme fantastique a décidé, avant, je ne sais plus ce qu'il faisait, il était agent de maintenance dans un palace. Et donc, il a tout quitté pour vendre des livres à Saint-Denis dans le 93. Pourquoi dans ce quartier-là? Parce que les librairies indépendantes y sont rares et que lui s'est dit « je veux vendre des bouquins ». Ce qui m'amène, parce que, entre autres, comme il est haïtien, il essaie de vendre le plus possible et de faire connaître le plus possible des auteurs haïtiens. Alors bien sûr, nous on pense tout de suite à Dany Laferrière et on a raison parce qu'il fait partie de ceux qu'il pousse. Mais il y a d'autres personnes et je pense notamment à Maryse Condé, dont le dernier livre « Moi, Tituba sorcière » existe depuis quelques semaines seulement en livre audio. Qui est Tituba, moi sorcière? Alors, de quoi s'agit-il? Tiens, dans ce bouquin, il s'agit de la fille de l'esclave Abena qui a été violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier. Tituba, née à la Barbade, donc c'est le nom de la jeune fille née de ce viol, elle est initiée au pouvoir surnaturel par Man Yaya, qui est une guérisseuse, une faiseuse de sorts. Son mariage avec John, indien, l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. Alors c'est dans cette atmosphère, nous dit-on, hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès, oui, des sorcières de Salem, on s'en souvient, en 1692. Tituba est arrêtée, oubliée dans la prison jusqu'à l'amnistie générale qui survient 2 ans plus tard. Alors là s'arrête l'histoire, mais Maryse Condé, elle, la réhabilite, l'arrache à cet oubli auquel elle avait été condamnée et pour finir la ramène à son pays natal, la Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves, extrait de « Moi, Tituba, sorcière ».
Quand Abena apparut, il se redressa sur un coude et murmura « Aquaba ». Puis, il la reconnut et s'exclama « C'est toi ?» Abena fondit en larmes. Trop d'orage s'était accumulé au-dessus de sa courte vie. son village incendié, ses parents éventrés et tentant de se défendre. Ce viol, à présent la séparation brutale d'avec un être aussi doux et désespéré qu'elle-même. Yao se leva, et sa tête touchait le plafond de la case, car ce nègre était aussi haut qu'un akoma. « Ne pleure pas, je ne te toucherai pas, je ne te ferai aucun mal. » « Est-ce que nous ne parlons pas la même langue ? Est-ce que nous n'adorons pas le même Dieu ?» Puis, il abaissa les yeux vers le ventre de ma mère. « C'est l'enfant du maître, n'est-ce pas ?» Des larmes encore plus brûlantes de honte et de douleur jaillirent des yeux d'Abéna. « Non, non, mais c'est quand même l'enfant d'un blanc. » Comme elle se tenait là, devant lui, tête basse, une immense et très douce pitié emplit le cœur de Yao. Il lui sembla que l'humiliation de cet enfant symbolisait celle de tout son peuple, défait, dispersé, vendu à l'encan. Il essuya l'eau qui coulait de ses yeux. « Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, c'est le mien. Tu m'entends ? Et gare à celui qui dira le contraire. » Elle ne cessa pas de pleurer. Alors il lui releva la tête et interrogea. Est-ce que tu connais l'histoire de l'oiseau qui se moquait des frondes du palmier ? Ma mère ébaucha un sourire. Comment pourrais-je ne pas la connaître ? Quand j'étais petite, c'était mon histoire favorite. La mère de ma mère me la contait tous les soirs. La mienne aussi. Et celle du singe qui se voulait le roi des animaux. Et il monta au faîte d'un iroko pour que tous se prosternent devant lui. Mais une branche cassa. Et il se retrouva par terre, le cul dans la poussière. Ma mère rit.
La délicieuse voix d'Audrey Fleureau lisant ce livre de Marie Scondé, nouvellement paru en audio, Tituba Sorcière. Restez avec nous à l'émission des livres pleins les oreilles, des cadeaux de Noël pour tous dans le domaine du livre audio, en seconde partie. Et oui, Noël oblige, on a plein de cadeaux à vous proposer, à offrir à ceux que vous aimez dans le domaine du livre audio. Ça s'emballe pas, c'est tout propre, ça prend pas de temps. Quel bonheur!
Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change parmi. Chemin faisant, que ce fut tendre d'ouïr à deux le chant joli que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers les pays. Bientôt le sien, fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
Génial, Georges. En voilà un qui me manque. Tu sais, quand tu dis là, qu'il y en a qui partent trop tôt, bon, vous me direz, maintenant, ça fait un bail, de toute façon, ils seraient partis. Mais réécoutez-vous, à un moment donné, là, moi, ça m'arrive, je me fais une après-midi Brassens.
J'adore les textes.
Ah, oui. Mais même la musique, tu sais, tout le monde pense que c'est papoum, papoum, tiens. Moi qui joue de la guitare, j'aimerais vous dire qu'on est loin du papoum.
Non, mais c'est assez dur à suivre comme mélodie,
Brassens. Non, c'est vraiment pas facile. Et est-ce que tu sais, Marie-Ève et vous tous, comment il écrivait? Est-ce qu'il écrivait d'abord le texte ou d'abord la musique, d'après vous?
Ah non, ça, j'en ai aucune idée. Le texte?
Non, oui, non, absolument. Oui.
Ah.
Et pour faire la musique, il lisait le texte à haute voix. Et c'est le texte, en le lisant à haute voix, qui lui donnait l'impulsion pour faire la musique.
Ah, c'est bon, ça.
Voilà, donc...
C'est un poète. Hein,
et c'est vrai que quand on lit à haute voix, il y a déjà une musique au départ.
Oui.
Donc, il respectait la musicalité des mots, et du coup, la musique lui venait... Presque, je mets ça entre guillemets, facilement.
Oui, c'est un travail quand même, mais...
Marie-Ève Groux, ça devient une habitude, je t'invite assez régulièrement, parce que je trouve que ça dynamise un petit peu tout ça, je trouve ça le fun. Puis comme on est quand même à une semaine de Noël, du moins la première fois que l'émission va être diffusée, on m'a dit quelle bonne idée, quand on ne sait toujours pas quoi offrir, que d'offrir des livres audio.
Quand on ne sait pas quoi offrir ou quand on s'y prend à la dernière minute...
Oui. On n'a pas besoin de courir, trouver une place, rien.
Exactement.
Tout se fait par Internet.
Exactement. La cohue du centre d'achat, c'est fini.
Non,
les bébelles inutiles, c'est fini. Ouais. Offrir un livre audio.
Oui, absolument, qui va rester, qui va demeurer.
Exactement.
Et qui va combler les oreilles de vos jeunes et de vos moins jeunes. Avec vous, on va plutôt aborder les plus jeunes. Puis ensuite, moi, je vais faire une autre chronique avec des livres un peu plus, entre guillemets, adultes.
Oui.
C'est tenté qu'Astérix, enfin bon, bref. Alors, ce petit Brassens et ce petit coin de parapluie nous amène vers le marchand de parapluies. Je précise que ce sont des livres qui se retrouvent déjà, d'ores et déjà, sur le site livreaudio.vusezvoix.com.
Oui, c'est des livres qui ont été publiés cet automne à Vusezvoix, qui sont donc disponibles depuis la mi-octobre, si
d'accord.
Je me rappelle bien, mais dont je vous parle cette semaine pour Noël, parce que je trouve que c'est des contes qui sont, pour la jeunesse, mais parfaits pour écouter en famille, en fait.
Oui.
Moi, je vais replonger dans ces trois histoire-là, parce que Clotilde t'a évoqué le marchand de parapluies, mais il y a trois contes de Dorothée Piatek dont je vous parle aujourd'hui, qui sont sortis en même temps. Donc, le marchand de parapluies, l'arbre derrière le mur et le vieux qui avait un grain dans la tête.
D'accord.
Ce sont des contes originaux avec environnement sonore original aussi, ce qui est très agréable à écouter.
T'as raison, au coin du feu.
Ben oui, oui. Il y a vraiment, il y a tout un univers qui se déploie et parce que ça, un peu comme le conte, ça se passe dans un univers qui est à la fois connu, pas connu. C'est facile de se laisser porter puis de laisser le décor se déployer dans la tête.
Oui.
C'est des très belles histoires.
Alors, l'histoire, le marchand de parapluies. Moi, j'ai déjà entendu l'extrait qu'on va entendre bientôt et vraiment, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Je te laisse aller.
Oui. Alors, Marchand de parapluies, narration de Mathieu Farcy, dont j'ai déjà parlé ici, plus par rapport à du horreur jeunesse. Ici, on le retrouve donc dans un conte qui fait pas peur pantoute, mais qui ravit les oreilles. Et donc, ce marchand de parapluies-là, qui a des problèmes avec sa boutique, il pleut trop, il peut pas assez, c'est vous qui allez le découvrir. Mais voilà, je vous propose qu'on écoute l'extrait.
C'est ici. Dans ce magasin tranquille et de très bonne réputation, que tout a commencé. Monsieur Pébroc s'était installé au numéro 6 de la rue Pépin, il y a une bonne vingtaine d'années. Il était l'unique fabricant de parapluies à des lieux à la ronde. Inutile de vous préciser que ses affaires marchaient fort bien. Entre ses mains, un bâton rugueux se transformait en une magnifique tête de canard ou encore de sirène. Mais le comble du luxe pour les clients de M. Pébroc, c'était de se faire tailler le portrait sur le pommeau de leur parapluie.
Monsieur Pébroc, j'adore, j'adore ça. Alors, un autre livre peut-être qu'on pourrait mettre entre toutes les oreilles à Noël, c'est Le vieux qui avait un grain dans sa tête. Même auteur, même lecteur?
Même auteur, même lecteur, même qualité d'environnement sonore, si je puis dire aussi. Mm-hmm. C'est ce que j'ai aimé en fait, c'est que même le titre m'attirait, oui. Le vieux qui avait un grain dans la tête. Ouais. On est vraiment dans l'univers du conte, comme vous avez pu entendre, des univers qui sont ben, connus, pas connus, comme je l'ai dit. Mais en même temps, il y a une originalité à ces contes-là que j'ai vraiment eu plaisir à retrouver. On est loin du conte de fées, on est loin du lieu commun royal, un peu monarchie. Il n'y a pas de dragon non plus. C'est des contes qui sont tout simples, qui ont une certaine, sans être moraux quand même, qui ont une certaine éthique, qui parle de belles choses, qui parle de sentiments, qui parle de... Et donc, Le vieux qui avait un grain dans la tête, et j'aimerais souligner le travail de l'illustratrice. J'ai oublié de noter son nom, en fait, c'est vraiment malheureux. Okay. Mais la couverture est sublime.
La couverture est sublime. Et dire combien de temps, à peu près, ces contes-là?
C'est des contes de 5 à 8 minutes.
Bon, c'est génial. En plus, pour endormir le petit, si à un moment donné, ça vous tombe.
Exactement.
Chérie, c'est à toi d'aller lire une histoire. Non, j'y suis allée hier soir, mais je te dis, ben regarde, oh, on va lui mettre Le vieux qui avait un grain dans sa tête.
La maison-cabane, faite de briques et de brocs, s'était élevée le long du canal sans que personne ne s'en aperçoive. Et personne n'osait s'en approcher. On se contentait de la regarder de loin, en se disant que celui qui habitait là devait avoir un grain dans la tête. C'est un vieux qui vivait là. Tous les jours, quel que soit le temps, le vieux qui avait un grain dans la tête longeait le canal. Il s'était bricolé une sorte de perche qui lui permettait d'attraper sur les eaux troubles du fleuve bouteilles et planchettes, canettes et cagettes. Quelquefois, c'est dans les poubelles mariniers qu'il dénichait ses petits trésors.
On a tellement envie, hein. On est tellement... L'évocation du livre audio, moi, c'est ce que j'aime, alors surtout avec cette voix merveilleuse. C'est on imagine encore plus, je trouve, quand on nous lit l'histoire que lorsqu'on la lit.
Oui. Et puis bon. je trouve que la musique qui accompagne ces contes-là est tellement bien faite que carrément c'est pas qu'un cinéma moi qui se déploie dans ma tête. J'ai l'impression de voir les couvertures s'animer. J'ai l'impression qu'on est dans du dessin, dans de l'animé. J'aurais envie que ça soit des très courts films qui passent à Ciné-Cadeau, par exemple.
Allez, on en veut encore. On en veut encore. Allez, encore. L'arbre derrière le mur, qui aussi est sur le site de livreaudio.visevoix.com. Pareil, même auteur, même lecteur, même ambiance.
Exactement.
Mais on s'en passe pas.
C'est peut-être le conte le plus mystérieux des trois. Ce fameux arbre derrière le mur qu'un personnage cherche à rejoindre. Je vous gâche pas le punch quand même. Je ne vous dirai pas s'il le rejoint ou pas, mais oui, même qualité d'enregistrement, puis c'est pour ça en fait qu'on a fini par les rassembler, ces contes-là.
Bien sûr.
Du fait de leur format assez court, moi j'en ai écouté un, j'en ai écouté deux, j'étais pas encore tannée pour le troisième, et on s'est dit, ben forcément peut-être que la réaction des lecteurs, des lectrices sera la même. Si on en aime un, on aime les trois, je crois.
Ah, c'est vraiment épatant pour Noël. Un extrait.
On raconte qu'un jour, à cause d'un arbre, un roi devint fou. Il s'appelait Vladimir et était toujours de vilaine humeur. Ses cris de colère passaient au-delà des murs de son château et couraient la campagne jusqu'au premier village. Mais un jour... Des éclats de rire s'échappèrent du château et roulèrent dans le ciel comme le tonnerre. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent aussitôt sur la place du village pour mieux entendre.
C'est vrai qu'on
ce
a envie.
Rire.
Oui, ah, ça donne tellement envie d'écouter tout le reste. Écoutez, ruez-vous sur ces livres-là. C'est vrai que ça fait des bons livres audio, même pas juste les nôtres. Offrez des livres audio, découvrez cette
livre
façon.
Livres audio, livres... Le... Oui. Offrez la culture.
Offrez
c'est
la culture, exactement.
Oui, c'est un cadeau qu'on traîne toute une vie.
Merci Marie-Ève, encore une fois, d'être venue. Je nous offre cette magnifique chanson signée Nino Ferrer. J'ai cette À chaque fois que j'écoute quelque chose, un livre audio, je me dis « Oh tiens, ça me rappelle quoi ?» Bien là, cet arbre derrière le mur m'a rappelé « La maison sous les arbres » de Nino Ferrer et c'est interprété là par Christine Tassan et les imposteurs.
La maison sous les arbres,
oui, c'est beau, ça.
Est en pierre de lune, posée une à une, comme des brindilles. Sur un nid d'oiseaux, des diamants qui brillent sur de l'eau. La maison sous les arbres est en pierre de lune, posée une à une, comme des Ce sera ton nid, ton abri, la maison sous les arbres n'aura que des fenêtres et un toit peut-être où les hirondelles et leurs hirondelles. Viens, je l'ai faite pour toi. De mes mains, elle a besoin de toi. Tu vois bien, elle est sans raison et n'a pas de nom sans toi. Sous les arbres est en pierre de lune posée une à une, mais pour l'habiter c'est bien entendu tu devras marcher
Quelle belle version, hein? Christine Tassin et Les Imposteurs, chanson de Nino Ferrer, La maison sous les arbres. Marie-Ève est restée là, et tu peux rester là, Marie-Ève. Moi, j'avais envie de mon côté de vous présenter quelques nouveautés, quelques livres sortis notamment chez les concurrents qu'on ne considère pas comme des concurrents parce que le livre audio, on en mange littéralement et on souhaite qu'on en écoute le plus possible. On aime beaucoup, entre autres, ce que font nos amis d'Audiolib qui nous proposent en ces temps de fête, Les cicatrices de la nuit d'Alexandre Gallienne. C'est un livre audio lu par Thierry Blanc. C'est un livre qui vient d'obtenir le prix du Quai des Orfèvres 2020 et donc il est déjà disponible, ce qui est déjà formidable, quelques jours, quelques semaines après l'obtention de ce prix-là. L'histoire, ben écoutez, c'est une histoire de flic, c'est un bon polar, comme on les aime. C'est l'histoire d'un type qui se fait muter à la brigade criminelle après avoir passé 20 ans à la mondaine. Il s'appelle Philippe Valmy. Et lui, il espérait s'éloigner des bars et des boîtes, où il adorait finalement passer et même finir ses nuits jusqu'à l'aube et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes indiques, aïe aïe, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans ces mêmes eaux troubles du Paris nocturne. Pour le pire, pas pour le meilleur, pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent pas. Je vous rappelle que c'est un livre d'Alexandre Gallienne, lu par Thierry Blanc. En voici un extrait.
À peine redressé, il voit son adjoint marcher vers lui d'un pas pressé. Antoine est petit et un peu enrobé. Il a 35 ans, mais sa démarche et son visage poupin lui en font paraître 10 de moins. Habillé d'un costume gris très strict, il ressemble à s'y méprendre un haut fonctionnaire. « Salut Philippe, dis donc, tu as mis le temps ?»« Je suis arrivé le plus vite possible, Antoine. Tu m'as franchi, s'il te plaît ?»« On a une jeune femme, entre 20 et 25 ans, a priori, égorgée et laissée à poil sans rien à côté d'elle. Pas de traces de coups. L'IJ est en train de faire des prélèvements pour voir si on trouve quelque chose. Pas de témoin, évidemment, elle a été trouvée là, dans le buisson, par un couple qui se baladait. Celui qui lui a fait ça l'a tailladée au niveau du bas-ventre. Un vrai crime de sadique. Ok. Des autorités sur place ou tu es tout seul? Pour l'instant, je suis tout seul, mais j'ai déjà appelé le patron pour lui faire un topo. Pardon? Tu l'as appelé? Tu connais le principe de la voie hiérarchique? Écoute, j'ai eu la tête du groupe en intérim pendant un an, donc je connais le boulot. Rien à foutre, Antoine. Tu m'as court-circuité. On en parlera au service. Les autres sont là? Aline et Julien sont en pleine enquête de voisinage. Jean est déjà en train de faire les constatations et Hakim est en route. Tu veux voir le corps ? Sans répondre, Philippe s'approche de la scène et salue Jean, son procédurier, l'un des plus anciens du service avec 25 ans au compteur. Les deux hommes se respectent et commencent même à s'apprécier. Proche de la retraite.
Alors, c'est donc le livre que je vous proposais peut-être déjà d'offrir en guise de cadeau de Noël, cet excellent polar qui vient d'obtenir le prix du Quai des Orfèvres en France. Ce n'est pas rien pour un polar que de recevoir ce prix-là. Il y a une nouvelle que j'avais envie de partager avec vous. Uber, figurez-vous, oui, Uber, vous savez, là, les taxis, là, qui s'improvisent taxi. Eh bien, Uber propose des livres audio en partenariat avec Audible pour déstresser ses passagers. Le roi du VTC, Uber, et le spécialiste du livre audio, Audible, se sont associés pour proposer une sélection de livres audio aux passagers afin de les déstresser pendant leur trajet. Évasion littéraire, c'est l'expression employée par Audible UK, l'un des spécialistes du livre audio, pour qualifier son association avec Uber. Alors cela se passe pour l'instant au Royaume-Uni, où la compagnie Uber a récemment commandé une étude qui révèle que 46% des Britanniques déclarent souffrir d'anxiété, tandis que 41% se sentent accablés par leur agenda. Le reste de l'étude montre que 25% des sondés passent leur temps de trajet à lire leur email, à répondre aux messages sur WhatsApp et à surfer sur les réseaux sociaux. Mais tout ne semble pas perdu, puisque 79% des interrogés ont fait le constat que leur niveau de stress diminuait dès lors qu'ils lisaient un livre. Alors c'est à partir de cette lueur d'espoir qu'Uber s'est associé avec Audible pour offrir à ses passagers 7 livres audio, afin que ces derniers puissent trouver, voilà, une sorte d'évasion littéraire pendant leur trajet. On ne sait pas de quel livre ils parlent, mais moi je trouve que ça pourrait être par exemple « Les Victorieuses », un livre audio écrit et lu par Laetitia Colombani. « Les Victorieuses » nous parle de Solène, pardon, qui est une brillante avocate et qui tente de se reconstruire après un burn-out. On va en écouter un petit extrait le temps que je tousse un petit peu et après je vais vous en parler.
La semaine suivante, Solène franchit les portes du palais. Le petit groupe de femmes africaines est installé au même endroit que la dernière fois. Elles boivent le même thé et des visages solennes du même air indifférent. Celle-ci hésite. Elle marque un temps et, prenant sur elle, s'approche pour les saluer. D'une voix qui se veut assurée, elle explique qu'elle est écrivain public et vient ici une fois par semaine. Si certaines d'entre elles ont besoin d'aide pour rédiger des lettres ou des courriers, elle sera ravie de les aider. Les femmes ne réagissent pas. Solène se demande même si elles ont entendu ce qu'elle a dit. Elles échangent quelques mots dans une langue qu'elle ne comprend pas, avant de faire un signe de la tête. Puis elles reprennent leur conversation comme si de rien n'était. Solène reste les bras ballants. C'est fait. Elle s'est présentée. Elle s'éloigne vers les tables disponibles. Elle ne va pas se mettre dans un coin comme la dernière fois, mais s'installer au milieu du foyer. Ainsi, tout le monde la verra. « Il faut prendre sa place », a dit Léonard. « Investir l'espace. Savoir s'imposer. » Solène a déjà entendu ce genre de baratin au cabinet. Se montrer convaincante lors d'une plaidoirie, tenir son cap face à un client, elle a appris. Mais son expérience ne lui est d'aucune utilité ici. Elle a quitté un palais pour un autre et les règles ont changé. Il va falloir les réinventer.
Alors, cette Solène, brillante avocate qui accepte une mission bénévole d'écrivain public, hein, comme vous venez de l'entendre, eh bien, elle fait partie de ces victorieuses anonymes auxquelles Laetitia Colombani donne vie dans ce livre-là qui s'appelle Les Victorieuses pour célébrer peut-être toutes celles qui refusent de se résigner. On nous dit que c'est un hymne à la solidarité prodigieusement romanesque portée par la lecture délicate de l'autrice elle-même, oui, c'est Madame Colombani que nous venons d'entendre. Allez, on change complètement de sujet. Il y en a peut-être qui sont rebutés par la grosseur des livres de Ken Follett. Personnellement, j'aime bien m'en servir pour faire des poids. Voyez-vous, parce que, eh bien, je me disais, mais pourquoi ne pas essayer de lire du Ken Follett par les oreilles, par exemple? Celui-ci, Le pays de la liberté, lu par Jean-Philippe Renaud, et maintenant existe en livre audio, ça dure 14h40. Pendant 14 heures, vous vous laissez bercer par cette voix et vous écoutez du Ken Follett plutôt que de vous taper ce bouquin vraiment trop lourd sur les genoux. Ou alors quand on lit ça le soir dans le lit, c'est épouvantable, on s'endort tellement c'est lourd. Alors l'histoire, nous sommes entre le jeune Mac, condamné à un quasi-esclavage dans les mines de charbon des Jameson, et l'anticonformiste Lizzie, épouse déchue d'un des fils du maître. Eh bien, entre ces deux-là, il n'a fallu que quelques regards et rencontres furtives pour faire naître l'attirance des cœurs. Mais, dans la société anglaise du XVIIIe, encore féodale, malgré les idées neuves de ses philosophes, l'un et l'autre n'ont de choix qu'entre la soumission et la révolte. Rebelle, fugitif, repris et condamné, Mac ne reverra Lizzie que dans la plantation de Virginie où on l'a déporté pour le travail forcé. Alors seulement, ils comprendront que le bonheur se gagne en forçant le destin.
Mac s'avança dans l'allée centrale de la petite église et dit d'une voix forte « Le paiement des Arles ne veut rien dire !» Sir George s'immobilisa et toutes les têtes se tournèrent vers Mac. Il y eut un moment de silence stupéfait. Mac entendait les battements de son propre cœur. « Cette cérémonie n'a aucune valeur !» déclara Mac. « On ne peut pas promettre ce garçon à la mine !» « Un enfant ne peut pas être réduit en esclavage. »«
Assieds-toi, jeune idiot !» dit Sir George. « Et tais-toi !»
Le ton paternaliste de cette réprimande mit Mac si fort en colère que tous ses doutes se dissipèrent. « Vous, asseyez-vous » lança-t-il. Et la congrégation resta pétrifiée devant tant d'insolence. Il braqua un doigt sur Mr. York. « Dans votre sermon, monsieur le pasteur, vous parliez de la vérité. » « Allez-vous prendre la défense de la vérité maintenant ?» Le clergyman regarda Mac d'un air soucieux. Qu'est-ce que c'est tout ça, Mac-H ? De l'esclavage ? Allons, fit York d'un ton conciliant. Tu connais la loi de l'Écosse. Les mineurs de charbon appartiennent aux propriétaires de la mine. Dès qu'un homme a travaillé un an et un jour, il perd sa liberté. Oui, fit Mac. C'est injuste, mais c'est la loi. Je dis, moi, que la loi ne peut pas réduire les enfants en esclavage, et je peux le prouver.
Extrait de Le Pays de la Liberté, maintenant en livre audio, Le Pays de la Liberté de Ken Follett, lu par Jean-Philippe Renaud, je vous le rappelle, 14 heures de lecture. L'émission tire à sa fin, mais je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a un livre à mettre, absolument un livre audio à mettre en dessous de l'arbre de Noël, à offrir aux petits comme aux grands. Ce sont les livres audio qui sont produits par Audiolib d'Astérix. Alors, il y a eu récemment, pour célébrer les 60 ans du petit bonhomme et de son gros ami, deux Astérix qui sont parus en audio, Astérix Gladiateur et Le Tour de Gaulle. Pas moins de 8 voix exceptionnelles et une musique originale ainsi que des bruitages sur mesure pour faire revivre toutes ces aventures renversantes avec Astérix et Obélix. Et ça, ça se trouve sur le site de Audiolib. Vous faites simplement audiolib.fr et vous tombez dessus, c'est même sur la première page. Voilà, en ces périodes de fête, eh bien, je vous les souhaite fort belles, je vous les souhaite surtout heureuses, je vous les souhaite apaisantes et pleines d'espoir et bien sûr pleines de livres audio à vous glisser entre les oreilles. C'était Clotilde Seille qui remercie ses invités et qui remercie aussi Maurice Bolduc d'avoir été là. De l'autre côté de la vitrine en régie. Merci à tous. Joyeuses fêtes. Salut.